Voilà, nous allons recommencer notre série intitulée Béréen l'explorateur. Donc la lecture de la Bible à la lumière, la lecture de la Bible du début à la fin, en soutirant, en prenant les choses belles qui sont dedans. Peut-être qu'on laisse tout seul quand on lit, mais ensemble, on va s'éclairer. Vous savez, il y a des gens qui ne lisent pas justement la Bible parce qu'ils la trouvent compliquée, parfois longue. Et quand on lit comme ça, en commentant, ça leur donne, ça leur met le pied à l'étrier. Ils se rendent compte que on peut lire la Bible et comprendre et que c'est agréable. Ce n'est pas un livre gros, difficile. C'est un livre riche et plein de découvertes agréables. Voilà le but de Béréen l'explorateur. Qu'on explore, qu'on découvre et qu'on soit heureux des découvertes qui vont nous aider à mieux nous attacher, plus nous attacher au Seigneur et à faire sa volonté. Donc maintenant, je vais recevoir l'aide d'un frère qui va à chaque fois lire le texte. Donc là, on va recommencer Genèse 45. On s'était arrêté à Genèse 44, donc on prend Genèse 45. Aujourd'hui, c'est le frère Frère qui va nous aider. Il va lire Genèse et à chaque fois, je vais arrêter pour les commentaires. Donc Genèse 45. Comme ça, le travail est partagé. Genèse 45, on s'était arrêté là, lorsque Joseph se fait connaître à ses frères. Voilà, nous allons écouter.
Genèse chapitre 45, à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et ses bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui.
Voilà. Donc, Cette première partie, c'est les retrouvailles en pleurs. Et nous retenons une grande leçon, hein, Romains 8, 28. Le but aussi de Béréen, l'explorateur, c'est de faire le lien avec les autres parties de la Bible. Montrer que la Bible est un livre uni qui nous édifie de A à Z. Donc là, nous voyons une application de Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je me souviens, donc à la dernière séance, on disait que le Nouveau Testament nous donne des instructions, des conseils et des recommandations qu'on pratiquait, c'est vrai, on pratiquait par obéissance parce qu'on comprenait plus ou moins aussi. Mais quand on voit ce que le Nouveau Testament nous donne comme instruction de perfection, être pratiqué par des gens de l'Ancien Testament, c'est là que ça devient vraiment du concret, c'est réel. On voit les conséquences de l'obéissance à Dieu. Donc, ce qu'on sait par le Nouveau Testament, Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, nous voyons Joseph le dire clairement. Ce qui m'est arrivé, c'était pour mon bien et votre bien. Donc Joseph ne considère pas ce qui lui était arrivé comme une méchanceté de ses frères, alors que c'est le cas. Mais lui, il prend la partie, c'est Dieu Tout-Puissant qui a fait tout pour nous sauver, nous tous. Même s'il est peut-être passé par votre méchanceté, mais en réalité, c'est lui quand même qui est à l'origine de tout. Mais combien de fois les chrétiens ont du mal à comprendre ça, à chercher toujours à accuser, à chercher toujours les boucs émissaires. Joseph était le mieux placé quand même, soyons sérieux, on a voulu le tuer. Ensuite, on le jette dans un trou, ensuite on le vend. Il était très bien placé pour accuser des gens. Très bien placé. Et en plus, il s'en est sorti dans la gloire, donc il était encore mieux placé pour dire, maintenant vous voyez, je peux maintenant me venger. Mais non, il se dit, en réalité, ce que je suis, c'est le résultat aussi de votre acte. Donc Dieu s'est servi de vous pour que nous tous nous soyons sauvés. Bien-aimés, maintenant, nous voulons la bénédiction du Seigneur. Parfois, cette bénédiction-là passe par notre rejet de la part des autres. Il faut que les autres te rejettent. Il faut que les autres te maltraitent pour que tu entres dans ta bénédiction. Mais combien de fois nous résistons? Combien de fois nous critiquons? Combien de fois nous jugeons les gens qui font le mal, qui nous font du mal? Alors que c'est ça même. Leur comportement est une bénédiction pour nous. C'est Dieu qui a tout préparé. Hein. Romains 8, 28. Au fait, on connaît Romains 8, 28. Là, on voit la pratique. C'est ça la différence. Donc, avec ce qu'on est en train de faire comme travail en lisant la Bible, on se rend compte que tout ce qui est dit dans le Nouveau Testament, ben, ça a déjà été vécu dans l'Ancien Testament par certains personnages. Et quand on lit ça, on se dit, mais oui, mais c'est vrai. Pourquoi moi je ne vivrai pas ça? Pourquoi moi je ne me comporterai pas comme ça? Oui, pasteur.
Est-ce qu'il y a une limite ou quel conseil tu peux donner? Par exemple, nous sommes témoins de l'épreuve que peut vivre un frère. On a les moyens de l'aider. Mais en même temps, Dieu permet que ce frère se retrouve dans le malheur. On peut avoir les moyens financièrement ou on peut avoir les moyens par notre statut dans la société de pouvoir faire quelque chose. Donc, à quel moment on intervient ou à quel moment on laisse la personne dans son épreuve avec Dieu?
Moi, je pense que c'est toujours lié à notre communion avec le Seigneur. Dans notre relation avec le Seigneur, le Seigneur nous guidera dans la façon de gérer nos biens. Et c'est peut-être ça le problème qui nous arrive, c'est que quand on a des biens, quand on a des possessions, quand on a un certain pouvoir, on a du mal à écouter le Seigneur. On use du pouvoir, on utilise l'argent, puisqu'on a décidé, alors que normalement, on devrait être conduit par le Saint-Esprit dans notre façon de gérer nos moyens. Ce n'est pas notre pitié qui doit nous diriger, même si c'est important qu'on ait pitié, mais ce n'est pas ça qui doit nous diriger, c'est le Saint-Esprit qui nous doit nous diriger. Et donc, nous revenons toujours au fait que toute la vie du chrétien doit être gérée par le Seigneur. Et si ce n'est pas totalement géré par le Seigneur, ben il ne pourra pas faire la volonté de Dieu comme il faut. Au moment où il faut faire la volonté de Dieu, il va faire la volonté de la chair. Donc je pense que c'est cela. Donc quand on se retrouve dans des conditions normales, moi je dis, l'aide est automatique. Quand quelqu'un souffre, automatiquement on l'aide. Mais quand maintenant on veut aider quelqu'un, on se rend compte qu'il y a des obstacles, il y a des blocages. Juste au moment où tu veux aider, juste, et tu veux recommencer, il y a encore un blocage. Pensons à prier et dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est toi qui me bloques ou c'est le diable? Donc pensons. Mais quand on se substitue à Dieu pour aider les gens, on peut faire du mal parce que c'était la volonté. On se met en opposition à la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu est obligé de nous bloquer et nous-mêmes, on souffre finalement parce qu'on a voulu faire quelque chose par la chair. Donc, c'est très important. Quand on veut aider les gens, c'est naturel, il faut qu'on le fasse automatiquement. Mais quand on voit qu'il y a des blocages, pensez à s'arrêter, prier que Dieu nous conduise. Voilà donc quelque chose qui est négatif vraiment sur lui. Mais Joseph transforme ça en applaudissement, en louange pour le Seigneur, en disant, ben voilà, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu me sauve. Dieu nous sauve tous. En réalité, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui a voulu que je vienne ici. Vraiment, si nous pouvions pratiquer cela dans notre vie de tous les jours, nous avancerons très rapidement. La gloire de Dieu se manifestera puissamment au milieu de nous. Arrêtez d'accuser ceux qui nous font du mal, mais avec patience, endurer et s'attendre à vivre la gloire du Seigneur, comme le Seigneur lui-même est passé par là. Donc nous continuons la lecture.
Verset 16. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Emmenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. »
Amen. Donc, j'irai, je le verrai avant que je meure. Oui.
Oui, je voulais revenir sur la lecture précédente avant d'entamer celle-ci. On n'entend pas bien. Quand Joseph dit que ce ne sont pas ses frères qui sont l'auteur finalement de son malheur, mais c'est Dieu qui a permis cela, dans Amos 3 aussi, Il est dit que arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Maintenant, à partir de ces écrits-là, certains trouvent dans ces écrits en fait la raison, enfin le fait d'accuser Dieu, pour dire que c'est Dieu qui permet le malheur ou bien qui envoie le malheur, enfin qui permet, oui, mais qui en est l'auteur directement. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, je comprends. Pour moi, c'est quand on dit que Dieu permet, en quelque sorte, comme il a la capacité d'arrêter la chose, s'il n'arrête pas, c'est comme si c'est lui-même. Donc quand on dit qu'il en est l'auteur, c'est dans ce sens-là. Puisqu'il a la capacité d'arrêter, s'il n'arrête pas, c'est comme si c'est lui qui envoyait cela. Et pour nous, ça ne nous gêne pas, parce que ça participe à la logique de la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, le Seigneur a dit, on récolte ce qu'on sème. Donc quand quelqu'un sème quelque chose, c'est une loi spirituelle, on récolte cela. Donc, quand cette loi s'applique, les gens ont semé dans la méchanceté, dans le mensonge, dans le vol, dans la cupidité, et que s'en suivent des guerres et beaucoup d'autres mauvaises choses, c'est en quelque sorte Dieu qui envoie, donc sa loi s'applique, sa justice s'applique, ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc il n'y a pas de souci dans cela, puisque c'est dans la loi de la justice de Dieu, de justice de Dieu.
Oui, pasteur, est-ce qu'on peut établir un parallèle par rapport à l'histoire d'Ézéchias? On se souvient que lorsque le Seigneur avait ordonné sa mort, et après il s'était lamenté, le Seigneur avait prolongé sa vie de 15 années, et c'était après cela qu'il a eu son fils Manassé, l'unique enfant. Et on sait que Jésus est... On sait que Jésus est issu d'Ézéchias, Manassé, etc. Est-ce que par là, on peut dire que même à travers ce malheur-là, Dieu a plus ou moins, disons, permis que Manassé, plutôt Ézéchias, reste en vie, parce que c'est par ce chemin-là que son fils allait venir.
Oui, donc nous revenons toujours dans tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Comme on dit, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais on subit quand même nos erreurs. Donc la justice de Dieu s'accomplit comme ces gens-là. Pendant des années, ils ont dû souffrir d'avoir vendu leurs frères. Ils en ont souffert. Mais cependant, Dieu accomplit quand même sa volonté. Donc c'est une consolation pour nous de se dire, quoi qu'il arrive, Dieu quand même accomplit sa volonté. Rien n'échappe à son contrôle.
Amen.
Voilà.
Parce qu'on a vu après Manassé, il a été parmi les
rois. Il a fait de grosses bêtises, voilà. Mais Dieu a quand même sorti finalement le Messie par là. Okay.
Par rapport à la question du pasteur Davis, il y en a qui pourraient dire, il y a des gens qui pourraient dire que, mais. Et les bébés ont fait quoi pour mourir dans cette justice que tu dirais de Dieu? Est-ce que la réponse pourrait être par rapport au, comme aussi Adam a péché, le péché originel? Donc c'est toujours les conséquences ou pas?
Parce que c'est les conséquences.
D'accord.
Les conséquences, ça s'applique sur toute la production de l'homme. Donc quand l'homme a péché, toute sa production a subi les conséquences. Donc, au fait, il n'y a pas une sorte d'égalité entre le mal qu'on fait et la conséquence. Je vais donner un exemple. Des enfants peuvent jouer, voler le fusil de leur père et jouer avec. Et on voit ça régulièrement aux États-Unis. Un enfant de 4 ans qui a tué son frère. Mais lui, il pensait jouer avec un revolver. C'est pas bon, il a désobéi, mais la conséquence est grave. Il tue son frère. Il ne voulait pas tuer son frère. Mais il ne savait pas que l'arme que lui interdisait le papa, ça pouvait vraiment tuer. Il n'a que 4 ans. Le papa dit, tu ne touches pas à ça. Lui, il va prendre et en jouant, il tue son frère. Donc l'erreur, d'ailleurs, c'est ce que nous souvent commet. On pense que le mal que je fais produira comme conséquence un mal qui lui est proportionné. Ah non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans le spirituel. Dans le spirituel, un petit mal peut produire quelque chose de grave. Voilà. Le mal, c'est le mal. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à refuser le mal sous toutes ses formes. Parce que nous, dans notre logique, on se dirait, mais ce que je fais là est petit, bon. Donc la conséquence sera petite. C'est ça d'ailleurs comme ça que nos codes civils et pénal qui nous dirigent, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc il y a proportionnalité entre la sanction et le mal que tu fais. Mais dans le monde réel et dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pourquoi on doit rejeter le mal, qu'il soit petit ou grand. Parce que ça peut avoir des conséquences très très graves.
Oui, pasteur, pour Joseph, je reviens à lui. Vous disiez tout à l'heure, on récolte ce qu'on sème, mais Joseph, il n'a rien fait de mal.
Oui, mais lui, il explique que c'était le plan de Dieu pour sauver tout le monde.
Oui, mais en attendant, c'est lui qui souffre, qui a souffert.
Oui, mais c'est ça l'amour. Donc l'amour de Dieu fait que un souffre pour les autres, donc ça manifeste l'amour de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est écrit dans Jean 15, le véritable amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vraiment on aime les autres, on est prêt à souffrir pour eux. C'est ainsi que Dieu, à travers Joseph, et Joseph, c'est ce qu'on appelle un type de Christ. Donc, c'est les souffrances de Christ à venir pour nous, Joseph, en quelque sorte, a souffert aussi pour son peuple. Voilà. Donc, c'est ainsi que Dieu nous enseigne l'amour. Oui?
Oui, question par rapport à cela. Lorsque le Seigneur sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce que cette prière-là que le Seigneur fait pour les hommes qui l'ont emmené à la croix, fait que ces hommes-là sont déjà pardonnés déjà? Et est-ce la même chose pour les personnes, par exemple, qui étaient dans l'Ancien Testament?
Ah non, mais quand le Seigneur fait cette prière-là, il parle à son père, mais chacun doit dire pardon pour son péché. Hein.
Malgré tout, quand même.
Malgré tout. Maintenant, par rapport aux conséquences directes, oui, la colère de Dieu peut s'arrêter. C'est-à-dire quand un parent prie pour que Dieu pardonne son enfant qui lui manque de respect, la conséquence directe qui fait que quand tu manques de respect à ton père, tu es maudit, l'enfant ne va pas subir ça. Mais le péché est là toujours. Et attend le jour que cet enfant-là demandera pardon pour qu'il soit effacé. Mais cependant, la conséquence directe, il ne subit pas puisque le Père pardonne. Voilà. Donc là, quand Jésus parle comme ça, donc la conséquence directe qui peut agir sur la terre est stoppée. Mais le péché est là. Donc chacun doit se repentir. Et donc, nous revenons à directement à ce qu'on venait de lire.
Chapitre 46.
Voilà. Donc, on n'a pas encore, j'avais pas commenté encore. Verset 28. Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Verset 28. Donc, au verset 27, on nous dit qu'il était toujours froid, malgré le fait qu'on lui disait, mais Joseph est vivant. Il était toujours froid. Il avait du mal à croire que Joseph soit vivant. Et ça peut arriver à nous les chrétiens, après avoir trop vu d'échecs, avoir parfois beaucoup souffert, de croire que les choses peuvent changer un jour. On n'est pas le premier. Donc Jacob était dans ce sens-là. Il s'est dit, je reste avec Dieu parce que c'est le véritable Dieu. Mais on reste avec ce Dieu-là, avec une certaine tristesse, avec une certaine... On est attaché à lui, mais on n'est plus convaincu de sa toute-puissance à 100%. Et ça peut arriver à beaucoup de chrétiens qui restent quand même chrétiens, qui restent dans les activités de Dieu, mais ils n'ont plus vraiment la vie. Ils n'ont plus la santé d'un vrai enfant de Dieu. Et le Seigneur est bon, il vient quand même nous réveiller toujours. Donc on est comme mort, mais on est là, mais les déceptions de la vie t'ont marqué, au lieu de voir l'action de Dieu dans ça, tu ne vois pas, tu restes avec des questions sans réponse et tu n'es plus vivant, quoi. Tu es chrétien juste parce que ton nom est peut-être dans le livre de vie, mais tu ne produis pas les choses que doivent produire les enfants de Dieu. Tu ne produis plus ça. Et c'est, on a un autre cas avec les disciples d'Emmaüs. Ils étaient là, en train de se promener, tout tristes. Jésus dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ah, mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé récemment. Jésus dit, mais quoi? Mais Jésus qui était parmi nous, un prophète puissant, parole en acte. Mais cependant, on l'a pris, on l'a crucifié. Cela a déjà fait 3 jours. Donc, il restait attaché au Seigneur, mais tout en étant comme mort. Mais Dieu est bon. À chaque fois, quand il nous voit dans cet état-là, il vient nous dire, je suis vivant. Réveille-toi. C'est ça, quoi. Oui.
Donc, quel conseil tu donnerais dans la mesure où il y a des promesses dans la Bible qui nous montrent que le mal ne va faire que s'amplifier, donc comme signe de fin des temps. Et lorsqu'on voit ce mal justement s'intensifier à tous les niveaux, que ce soit dans les compromis, dans les injustices, notamment dans certains pays, là où il y a la dictature, tu n'as pas le sentiment que les choses vont s'arranger et en même temps, les promesses du Seigneur disent que les choses ne vont faire que s'empirer. Donc, quel conseil donner justement pour rester quand même dans un état d'esprit de combattant, quoi.
Voilà, donc le conseil que je donne, c'est que les promesses que les choses vont s'empirer, vont devenir difficiles, les prophéties là sont là, mais les promesses de Dieu n'ont pas non plus changé. C'est ce que Jésus leur a dit. Jésus a dit, homme sans intelligence, vous êtes lent à croire ce que disent les Écritures. D'accord, ce que j'ai subi, c'était prédit. N'est-ce pas, c'est écrit que le Fils de l'homme devait souffrir. Mais c'est ainsi écrit qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc vous, vous avez pris seulement la partie, le Fils de l'homme devait souffrir. Vous avez oublié la partie qui devait ressusciter le 3e jour. C'est le conseil que je donnerai à chacun de nous. Oui, il y a des prophéties qui parlent des malheurs, qui parlent des difficultés. Mais les promesses du Seigneur sur sa fidélité, sur sa puissance, demeure aussi. Donc, celui qui sera toujours avec le Seigneur expérimentera les deux. Il verra le monde périclité, il verra des difficultés, des guerres dans le monde, mais il verra aussi le peuple de Dieu toujours dans la paix, sous sa protection. Il verra aussi toujours sa gloire. C'est ce que Jésus leur dit. Ce que moi j'ai vécu, c'était écrit, mais c'était écrit aussi que le 3e jour, je ressusciterai. Donc, il faut que devant tout ce qu'on voit comme marasme, qu'on te dise que moi, je suis un enfant de Dieu, la lumière doit être avec moi, je vais chercher la face de Dieu, je vais prier, comme le Daniel à Babylone. Ils n'ont pas baissé les bras, malgré le fait qu'ils avaient perdu la guerre, ils étaient à Babylone, ils étaient comme les esclaves, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont dit, non, nous on ne va pas manger comme les autres. On est des enfants de Dieu, nous devons garder notre standing d'enfant de Dieu dans notre comportement et Dieu va manifester sa gloire. C'est ce qui s'est passé. Donc le conseil que je donne, pendant que tout est en train de péricliter, soyons de plus en plus chrétiens. Allons à fond. Donc, et c'est comme ça que la gloire de Dieu va se manifester et nous dirons c'est vrai, on a fait le bon choix. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 22, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Voilà, c'est ça le conseil. Oui.
Oui, c'est la question que je me posais aussi tout à l'heure. Et on voit bien, malgré qu'il a souffert, et le plan de Dieu s'accomplissant toujours, et Dieu réalisant en fait les songes qu'il avait montrés à Joseph, nous montre bien la suite que quand c'est le plan de Dieu, tout nous est favorable. Par exemple, là, je vois, quand on lit au verset 16, il est dit, le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes. » Donc là, on voit que, comme si Pharaon et le peuple étaient d'accord de tout ce qui pouvait arriver, quoi, de tout ce que Joseph allait faire. Donc on voit que vraiment, quand il dit telle chose, personne ne s'oppose, tout commence à couler. C'est la question que, disons, je méditais sur ça tout à l'heure.
Oui, donc quand Dieu est favorable à toi, c'est écrit dans Proverbe 16, verset 7. Donc, Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Donc, quand Dieu t'approuve, donc même tes ennemis, bah, il va les utiliser pour toi. C'est ça qui est, et à combien plus forte raison tes amis. Voilà. Donc, je reviens sur le 28 encore. Et Israël, finalement, Joseph, hein, et Jacob, c'est lui Israël, il dit « c'est assez ». Parce qu'on a dit que quand il a regardé les chars, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. Il a compris que là, c'est un grand. De tels chars, ça ne peut être qu'un grand homme qui peut envoyer ça. Et il a vu tout ce qu'on a envoyé. Il est écrit, son esprit se ranima. Ça ressemble aux disciples d'Emmaüs. Hein. Quand ils ont compris que c'était le Seigneur, voilà, leur esprit s'ouvrit. C'est écrit. Leur intelligence est revenue. Je dis, mais. Et le Seigneur va nous ranimer toujours. Si nous sommes ses enfants, même quand nous sommes découragés, il va nous ranimer. Il faut qu'on garde confiance au Seigneur. Et son esprit se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ça nous rappelle qui a dit avant que je meure, c'est Siméon dans Luc au chapitre 2. Il dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller parce que j'ai vu le Messie que tu avais promis. Maintenant je peux mourir. Vraiment, Joseph était, c'est le type de Christ. C'est Jésus avant le temps. Et Jacob dit, quand je verrai Joseph, maintenant je peux mourir. Et ça me fait dire une chose, c'est que dans la vie de tout homme, il y a comme une mission que Dieu a confiée à chaque homme. Chacun à son niveau. Mais quelque chose que tu peux dire, sur lequel tu peux dire, maintenant que j'ai fait ça, c'est bon, je peux m'en aller. Je ne parle pas de quelqu'un, ah, maintenant que j'ai une Mercedes, ah non, c'est, ça, c'est des trucs. Ça c'est des trucs zéro. Non, je ne parle pas de ça. Donc, je parle de la mission de Dieu. Je dis, quelqu'un peut voir un enfant pour lequel il a prié pendant 25 ans pour se convertir. Et dès qu'il le voit se convertir, il dit, maintenant je peux mourir. Quelqu'un peut vouloir qu'un tel puisse servir Dieu à telle dimension. Et le jour où il voit cette dimension, il dit, maintenant je peux mourir. C'est-à-dire que Dieu t'avait placé sur terre pour qu'un tel atteigne telle dimension. Et tu vas savoir que là, j'ai fait maintenant ma part. Je peux m'en aller. Et parfois, c'est changer aussi de lieu. Dieu peut faire changer de lieu à quelqu'un. Donc quand tu vois que ce que tu devais faire est fait, et tu te dis maintenant c'est bon. J'en parle pourquoi? Parce que beaucoup trop de chrétiens vivent une vie chrétienne hein, sans but, sans objectif et sans lien avec Dieu. Juste une vie de ticket. Ils ont pris le ticket pour le ciel. Non. Le Seigneur veut se servir de nous pour quelque chose d'important. Jacob reconnaît, on va le voir même par la suite, hein, Jacob reconnaît que Joseph était comme son objectif sur terre. Donc Dieu a placé Jacob pour enfanter Joseph. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc pour Jacob, l'important dans sa vie, c'est Joseph. Parce que spirituellement, Dieu allait passer par Joseph. Et pour lui, revoir Joseph, se dire, ben, le plan de Dieu est toujours en continuation. Le travail de Dieu continue. Maintenant, je peux m'en aller. C'est beau de voir un homme vivre pour le plan de Dieu et non pour des logiques humaines personnelles. Parce que logique humaine personnelle, Jacob avait combien ? Plus de 12 enfants. Parce que ses enfants avaient d'autres enfants. Donc, ils étaient nombreux. On va citer le nombre tout à l'heure. Sur le plan personnel, Jacob était riche. Mais, il dit, le jour où je vois Joseph, maintenant, je peux mourir. Parce qu'il saisit là que son existence sur terre avait pour objectif principal spirituel Joseph. Joseph, c'est le plan de Dieu. Quand je vois le plan de Dieu s'accomplir, je peux partir. Et le Seigneur l'a dit aussi, lui aussi. Hein. Quand on lui a dit que les Grecs te cherchent, il a dit, ah, si les païens commencent à me chercher, ça veut dire que mon heure est arrivée. Dans Jean 12, il dit, quand on lui a dit, il dit, l'heure est arrivée pour que je sois glorifié, c'est-à-dire que j'aille à la croix. Il a compris que Dieu changeait, donc le temps changeait. Du moment que les païens le cherchent, ça veut dire que sa mission avec Israël est finie. Donc il doit être crucifié. Il a compris que c'était fini, puisque les païens commencent à le chercher. Et nous pouvons saisir les choses de Dieu comme ça. Les choses de Dieu, c'est Dieu va te mettre quelque chose, un point important. Et c'est malheureux de voir que aujourd'hui beaucoup continuent à lutter pour tel travail, pour telle maison, pour ceci. Je ne suis pas contre ces choses-là, mais le Seigneur dit que il sait que nous en avons besoin. Il va pourvoir. Il veut que, comme Jacob, nous puissions nous attacher au plan que nous estimons étant son plan. C'est-à-dire, est-ce que la ville de Rouen est sauvée? Est-ce que ma famille est sauvée? Est-ce que Dieu va te mettre quelque chose qui est en relation avec la suite? Avec la suite concernant son histoire avec l'humanité. Il va te mettre quelque chose. Et quand tu as ça, quand tu vois, tu dis, ah, ce que Dieu avait mis en moi, c'est en train de s'accomplir. Je n'ai même plus besoin de vivre puisque mon objectif sur terre a été accompli. Je peux m'en aller maintenant. Maintenant, Dieu peut juger que tu restes encore. Ça, c'est lui. Mais toi, tu as compris. Tu es attaché au plan de Dieu. Et c'est important ce que Jacob dit là. J'irai, je le verrai avant que je meure. Oui.
Oui, pasteur, je reviens sur la question que le frère a posée derrière. C'est est-ce que quand nous prions pour des promesses que Dieu a données, par exemple, nous verrons des guerres, nous verrons des soulèvements, et que nous, on se met à prier, par exemple, à dire Seigneur, fais que ça s'arrête, fais que ça se passe pas. Est-ce que nous prions bien?
Non, moi, je pense qu'on peut prier localement, c'est-à-dire que par rapport à toi, là où tu es, là où tes pieds ont foulé, tu peux prier par rapport aux promesses du Seigneur, là où tu es, qui est la paix. Mais dans le monde globalement comme ça, tu ne peux pas. Dans le monde globalement, ce qu'il faut faire comme prière, c'est que les gens soient sauvés. Les gens se convertissent. Mais on peut demander la paix d'une manière locale, parce qu'on est là et on est le sel de la terre. On est la paix de cet endroit-là. Voilà.
D'accord, merci.
S'en aller dont tu parles, c'est mourir.
Oui, oui.
D'accord. Et j'allais demander parce que comment savoir, tu me diras, Dieu te fera sentir dans le cœur. Mais avec le Seigneur, des fois, on a beaucoup de projets spirituels, bien sûr. On veut que telle personne soit sauvée, telle personne arrive à la maturité, que moi-même, je puisse, voilà, que telle ville soit sauvée. Mais comment, est-ce que c'est seulement, il y aura une chose, ou ça peut être plusieurs choses à la fois qu'on veut que le Seigneur puisse...
Non, mais il y aura un moment où le Seigneur te montrera que toutes ces attentes-là sont réglées. C'est comme Siméon. Siméon voulait voir Israël sauvé, mais quand il dit que c'est bon, mais il n'a vu que le bébé. Il n'a pas vu un tel pharisien être sauvé, il n'a pas vu telle chose se passer à Samarie, il n'a pas vu tout ça. Mais on lui a mis la paix sur le fait que le bébé que tu vois là va régler tout ce que tu avais comme attente. C'est cela. Donc ce bébé-là résout tout ce que tu attendais là. Voilà. Et il a dit, bon, maintenant que j'ai vu le Messie d'Israël, je peux mourir. Voilà. Il a prié toute sa vie pour ça. Et Dieu lui donne maintenant ce Messie. Il a dit, je peux maintenant mourir. Parce que toute sa vie, c'était ça. Il fallait que je voie le Messie. Et Dieu lui dit, maintenant, le Messie est là. Toutes tes attentes pour Israël vont être résolues. Et le Seigneur nous montrera, oui, ce que tu attendais là est résolu aujourd'hui.
Oui, pour ça, on sait que Jésus est la solution. Jésus peut résoudre tout. Mais dans notre, à notre niveau, en quoi est-ce qu'un membre de la famille qui soit sauvé, une personne qui est sauvée peut résoudre, je sais pas, le problème.
Mais tu sais que lui, il va être utilisé par Dieu pour tout ce que toi, tu attendais. Voilà, lui va être utilisé pour ça. Donc, quand Dieu sauve la personne, tu dis, ah, maintenant, Dieu m'avait juste mis en place pour que lui vienne. Maintenant qu'il est là, je peux m'en aller. C'est ça que Jean-Baptiste a dit, non? Maintenant que lui-même, le Messie, a commencé le ministère, moi, je peux m'en aller. Et peu de temps après, il est mort. Il a compris. Jésus lui-même commence à prêcher. Jésus lui-même commence à travailler. Jean-Baptiste a dit, ah, mes disciples, ne me suivez plus, suivez-le. Moi, j'avais été appelé pour lui préparer le chemin. Mais maintenant qu'il fait, je peux maintenant mourir. Et nous devons comprendre qu'il y a des gens qui s'attachent à la terre, moi ça me dépasse. On s'attache à quoi ici? Donc quand tu as compris que ta mission, Dieu t'avait mis pour telle chose, c'est fait, tu dis, ah Seigneur, je vois, tous mes enfants maintenant te servent, maintenant je peux partir. Je ne dis pas que tout le monde le dise là. Je dis que le Seigneur te montrera ça, que voilà, c'est ce que j'attendais de toi. Voilà. Oui.
Par rapport aux événements, la parole elle nous dit que de toute façon, ils vont arriver. Les guerres, les crises, enfin toutes ces choses-là vont arriver. La parole nous dit aussi que nous-mêmes, nous serons persécutés, nous serons mis à mort. Donc, ce sont des choses que la parole dit, elle, ça va arriver. Donc pourquoi, qu'est-ce que notre prière va changer à tout ça, puisque Dieu a résolu que ces choses-là puissent s'accomplir, elles s'accompliront de toute façon.
Oui, oui. Moi, j'ai parlé de localement.
Oui, mais même localement.
Vas-y.
Mais même localement, puisque nous sommes dans un pays, si la France est touchée, la Normandie sera touchée, Rouen sera touché, notre quartier sera touché.
Mais il n'y a pas qu'une seule prophétie, il y a d'autres prophéties. C'est qu'il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Il nous dit que tout ce que nous demandons en prière, croyons que nous avons obtenu cela. Donc nous avons les prophéties que tout ça va arriver, mais nous, on peut prier que là où nous sommes, les choses soient différentes. Parce que nous sommes là, parce qu'il a dit que les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, mais le peuple de l'Éternel est toujours dans la paix. Donc nous, on va réclamer ça pour là où nous sommes. Mais là où nous ne gérons pas, nous laissons ça entre les mains de Dieu. Voilà. Donc nous avons l'autorisation de changer là où nous sommes. C'est ça la puissance, la mission que Dieu nous a donnée sur la terre. C'est que là où nous sommes, ça change. C'est ce que nous devons faire comme chrétiens jusqu'au bout, en attendant son retour. Parce que les gens ont croisé les bras en attendant le retour du Seigneur. Non, on peut transformer là où nous sommes. On peut transformer ça. Oui.
Que dire des propositions de prière de portes ouvertes quand ils demandent de prier pour tel pasteur ou telle famille ou les chrétiens persécutés ou tel pasteur ou tel homme ou femme chrétien qui se trouve en prison, que ce soit en Syrie, en Irak, en Corée du Nord par exemple?
Oui, mais ils ne disent pas qu'on prie forcément pour qu'ils soient libérés. Hein. Il y a tout un tas de sujets de prière. Que Dieu fortifie leur foi, que Dieu prenne en charge leurs enfants qui sont restés seuls sans papa. Il y a tout un tas de prières. Mais aussi qu'ils sortent de prison. Quand Pierre a été emprisonné, on a prié pour lui par toute l'Église. Et Dieu a envoyé un ange le sortir.
Oui, mais par rapport à ce que tu disais, donc quand les chrétiens, c'était local, mais les pays...
Mais c'est des chrétiens qu'on connaît, c'est comme si on était en connexion. Donc c'est quand Portes Ouvertes demande, compris pour ces pasteurs-là, il est en connexion avec ces gens-là. C'est dans cet esprit-là d'unité qu'il demande ça. Mais nous, ce qui se passe aux États-Unis, d'une manière, on ne sait pas ce qui se passe là, d'une manière générale dans le monde, on ne peut pas gérer ça. Mais là où nous, on a un lien d'action, on peut dire au Seigneur des choses. Voilà. Et quand Pierre a été emprisonné, toute l'Église a prié pour lui afin qu'il sorte. Ils ne se sont pas dit, c'est la persécution qui reste là-bas. Ah non! Donc, le Seigneur permet aussi des difficultés pour qu'on prie et pour qu'on voit sa puissance dans la résolution du problème. Donc il permet aussi ça à cause de ça. Donc afin que lorsqu'on prie, on voit sa puissance. Maintenant, si en priant, l'Esprit nous dit, c'est moi qui veux les choses ainsi. On va arrêter de prier. Voilà. C'est moi qui veux qu'ils soient en prison. On arrête de prier qu'ils sortent de la prison. On commence à prier pour qu'ils soient fortifiés là-bas. Mais comme on a dit par rapport à l'aide, c'est la même chose. Donc, dès que quelqu'un souffre, automatiquement, nous demandons au Seigneur de guérir la personne. Mais si en demandant que Dieu guérisse la personne, l'Esprit nous montre que non, c'est sa volonté, on laisse. Donc, dès que quelqu'un a un problème financier, un problème matériel, automatiquement nous devons aider. Mais si en voulant aider, nous sentons des résistances, des blocages, on se dit, ah, peut-être c'est pas la volonté de Dieu, nous allons chercher la face de Dieu. C'est la même chose. Oui.
Après, quand tu as donné la réponse par rapport à la prière locale, c'est vrai que nous, on ne peut pas prier pour tout ce qui se passe dans le monde, tout ça.
Ah non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prier pour tout ce qui se passe. Prier dans le sens que ça s'arrête. On ne peut pas prier pour que dans le monde le mal s'arrête, parce que ça voudrait dire qu'on est au paradis maintenant.
Oui, d'accord. Voilà, mais la Bible, elle est quand même claire dans ce qu'elle dit par rapport. Même après, les choses du monde, d'accord. Mais quand la Bible fait un rapprochement par rapport aux problèmes qui se passent dans les familles, qu'il y aura, je sais pas, les mères vont se lever contre leurs filles et vice versa. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Mais la Bible, elle a comme déjà prédit, donc qu'est-ce qu'on peut changer à ça, sachant que Dieu avait déjà prédit ça?
Non, mais nous, on peut changer les choses en priant pour que les gens se convertissent. Donc quand quelqu'un se convertit, il ne va pas se diviser de sa maman. Mais quand la Bible prédit ça, la Bible ne demande pas, c'est qu'on ne prie pas.
Non, je sais, mais si la Bible dit déjà, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles...
Ça veut dire que les hommes vont être négligents et tout ça va s'accomplir. Mais là où les gens ne sont pas négligents, la gloire de Dieu est là, ces choses-là seront bloquées. Donc tout est lié au réveil du peuple du Seigneur. Si le peuple du Seigneur s'endort, ces choses-là s'accomplissent. C'est écrit dans le Proverbe 29, dans plusieurs passages de Proverbe, quand les justes ne font rien, le mal se multiplie.
Mais après, je pense qu'il faut aussi admettre que tout le monde ne sera pas sauvé quand on parle de l'affaire d'Ivraie.
On est d'accord, mais ça ne nous empêche pas de vouloir sauver tout le monde. En même temps, on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais en même temps, on travaille pour que tout le monde soit sauvé. Nous, on doit faire notre part. Mais on connaît la fin. C'est comme si le Seigneur ne serait pas crucifié sachant que tout le monde n'avait pas été sauvé. Non. Il s'est dit, même si tout le monde n'est pas sauvé, moi, je vais mourir pour tout le monde. Après, ceux qui seront sauvés, seront sauvés. Voilà. Donc, nous, c'est pareil. Tout le monde ne sera pas sauvé, mais nous devons aussi mourir pour tout le monde, comme le Seigneur lui-même. Nous devons travailler jusqu'au bout, Même si tout le monde ne sera pas sauvé, on doit travailler jusqu'au bout pour que tout le monde soit sauvé. À moins que Dieu nous dise, un tel, ce n'est pas la peine, il a péché contre le Saint-Esprit. Oui.
Je voudrais revenir sur le début de la réunion. Quand tu as pris l'exemple d'un père avec son enfant, l'enfant qui a tout fait pour déshonorer le père pardonne. D'accord ? Là, tu disais que le pardon est accordé, en fait.
Non, je disais que oui, les conséquences, le pardon du père est accordé. Donc, les conséquences liées à la colère du père sont arrêtées. Voilà. Mais le péché de cet homme-là vis-à-vis de Dieu demeure. Oui, oui, vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de son péché. Mais les colères liées, la conséquence, parce que Dieu a établi des relations spirituelles sur terre, donc tu manques de respect. C'est écrit dans Éphésiens 6. Honore ton père et ta mère afin que tu aies des longs jours. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'aller en enfer ou au ciel. Déjà, quand tu pèches, il y a l'enfer qui t'attend. Mais quand tu pèches contre tes parents, tu ne vivras pas longtemps. Voilà. Donc, maintenant, quand ton père te pardonne, cette conséquence-là de ne plus vivre longtemps ne va pas s'accomplir pour toi. Parce que tu as le pardon de ton papa. Mais le péché qui t'amène en enfer, lui, il est toujours là. Il faut que toi-même, tu demandes pardon à Dieu.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que l'enfant de son côté, il doit aussi faire sa part.
Oui, oui, vis-à-vis de Dieu pour que son péché soit effacé.
Mais il n'est pas obligé de faire cette démarche vis-à-vis de son père.
Aussi, quand même, aussi de quand son même. Père, oui, 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 oui. Parce qu'il a péché contre son père aussi. Voilà, donc nous continuons, chapitre 46.
Chapitre 46, Genèse. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici !» Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Hénoc, Palu, Hetzron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Oad, Jakin et Tsochar.
On peut aller directement au verset 27.
Verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, Mes frères et la famille de mon père, qui étaient en pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux. Ils ont emmené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira « Quelle est votre occupation ?» vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. »
Voilà. Donc c'est la rencontre Joseph et Jacob. Et Jacob confirme, oui, maintenant je peux mourir, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Jacob a compris que le plan de Dieu allait continuer. Je sais qu'il y a des gens toujours pour dire, mais non, mais Jacob aimait plus Joseph. Bien-aimé, moi je ne suis pas d'accord avec tout ça. Je respecte ce que dit la Bible. Jacob, ce n'est pas qu'il aimait Joseph en tant qu'enfant d'une manière physique plus que les autres, pas du tout. C'est que Jacob avait vu qu'il y avait le plan de Dieu à travers Joseph. Et Jacob, étant un amoureux de Dieu, tenait à Joseph dans ce sens-là aussi. Je veux vous donner l'exemple simple, parce que certains ne comprennent pas pourquoi, mais Dieu a été trop dur envers Esaü, juste pour un problème de lentille. Mais oui, mais Esaü a refusé le plan de Dieu. C'est Dieu qui a fait le droit d'aînesse, tout ça. Donc, que tu viennes avant, c'est Dieu qui a fait cela. Et toi, tu dis, non, je vais vendre ça pour des lentilles. Et Esaü a méprisé le plan de Dieu. Et Jacob, lui, il tient au plan de Dieu. C'est ça la différence. Pourquoi Jacob va chercher le droit d'aînesse? Ça allait lui donner quoi, physiquement? Pas grand-chose. Mais c'est le plan de Dieu qui intéressait Jacob. Jacob était intéressé au plan de Dieu. Et on voit combien il est attaché à ce que Joseph, parce que Joseph, c'est le chemin de Dieu. C'est pas encore fini, nous allons voir cela par la suite. Il dit, mais non, ma destinée avec Dieu, ça va continuer. Joseph est vivant. Dieu n'a pas menti. Je vais continuer à exister. Vous savez, quand quelqu'un voit des choses comme ça, il considère que lui-même continue à exister à travers Joseph. La lignée va continuer parce qu'il était attaché au plan de Dieu. Lorsque nous voyons la relation de Jacob avec les autres, on se rend compte que les autres n'étaient pas très éclairés par rapport à la relation entre Jacob et son Dieu. Mais c'est Joseph qui entre dans cet éclairage-là. Et Jacob voit que cela compte. Le plan de Dieu pour Jacob était très, très important. Donc, c'est cela. Il voit Joseph, il dit, maintenant, je peux m'en aller. Donc, il ne faut pas tomber dans des jalousies inutiles quand Dieu choisit quelqu'un. Ce n'est pas que Dieu préfère la personne, mais il y a un plan qui est là, oui. Donc, c'est cela. Et Jacob donne Joseph donne la sagesse aux gens qui étaient venus avec Jacob pour dire à Pharaon, nous sommes des bergers, ce qui était vrai aussi. Et comme les Égyptiens n'aiment pas les bergers, ils vont les mettre à part. Donc, ils vont rester un peuple à part, malgré le fait qu'ils sont quand même en Égypte. Oui.
Je voulais revenir sur le droit de naissance. Je ne sais pas, toi qui étais en Israël, j'aurais entendu, disons pas entendu, mais j'ai lu que en Israël, le droit de naissance n'était pas une position par rapport à la famille, mais c'était un titre que chacun pouvait perdre. Question dit.
Bon, je ne sais pas si chacun pouvait perdre. Là, on a la preuve qu'on peut, avec Jacob et Esaü avait perdu ça. Mais le droit de naissance est important, c'est ce que je sais. Donc c'était important. C'est pourquoi Jacob a voulu justement prendre ça. Donc c'est la logique de Dieu, il met le premier. Quand même l'apôtre Paul parle de l'homme et la femme, il dit c'est l'homme qui est venu en premier. Donc l'ordre de venue est important pour Dieu. Mais c'est pourquoi d'ailleurs on dit que les enfants doivent respecter, honorer leur père et leur mère, puisque c'est par eux qu'ils sont venus. Cet ordre-là est important, mais Esaü a méprisé cela. Donc il a méprisé l'ordre de Dieu, il a méprisé le plan de Dieu. Et là, nous voyons un homme s'attacher vraiment à ce plan-là et certains le prendront comme une sorte de favoritisme. Ce n'est pas du favoritisme, c'est l'attachement à Dieu. Quand quelqu'un est attaché à Dieu, il est attaché au canal de Dieu, il est attaché par ce que Dieu fait. C'est comme ça. Chapitre 47.
Genèse chapitre 47. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon: « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon: « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph: « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob: « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon: « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays.
Donc on peut s'arrêter là. On va discuter du verset 9, de 8 à 9. Pharaon dit à Jacob: « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon: « Les jours des années de ma vie errante, donc de pèlerinage, sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Donc Jacob dit: ma vie de pèlerinage, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que notre frère Pierre dit dans 1 Pierre 2:11: bien-aimés, considérez-vous comme des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Et la Bible est unie. Vous savez, on peut se dire, mais Dieu est tout puissant, pourquoi il n'a pas fait que Jacob et ses parents soient dans un seul endroit une fois pour toutes? L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 10. Dieu leur a fait vivre une vie qui allait être un enseignement pour nous, les gens de la fin, afin que nous soyons très efficaces. Le problème, c'est qu'on n'est pas aussi efficaces qu'eux, ils attendaient. Parce que Dieu a fait vivre Jacob cette vie-là, afin que tout ça soit écrit, pour que toi et moi, on ait une référence pour être très efficaces dans notre vie. Mais nous, malgré ça, on oublie le pèlerinage. Allez, on s'assoit. Télévision. On s'assoit. Projet personnel. Mais non. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, Dieu leur a fait vivre une vie pour que ça soit écrit, pour que toi et moi, on soit hyper efficaces, de sorte que Jacob dise: ah, je n'ai pas vécu ça pour rien. Mais non. On arrive à nous, les gens toujours dans leur projet charnel personnel. Ils ne veulent pas faire le pèlerinage. Il dit, ma vie a été difficile. Effectivement. Problème avec Ésaü, il fuit. Il se rend chez Laban. Laban lui fait faire 14 ans de travaux forcés pour avoir les deux femmes. D'abord, il escroque pour la première femme. Ensuite, 14 ans de travail. Et quand il veut quitter, des complications. Et il veut lui récupérer toutes les brebis. Finalement, Dieu donne les brebis à Jacob. Jacob est obligé de fuir Laban. En fuyant là-bas, il y a Esaïe aussi sur sa route. Donc, une vie difficile. Difficile. Et après, des problèmes avec ses propres enfants. Ces enfants qui vont tuer des gens. Donc, Jacob était. Il lui-même dit, ça a été des jours difficiles. Mais avec Dieu à côté toujours. C'est pourquoi quand Jacob voit son fils venir lui dire, j'ai fait tel songe, Jacob comprend, ah, mon Dieu maintenant décide de passer par cet enfant-là. Mon Dieu est réel. Il est réel. Ça ne va pas s'arrêter là, c'est le véritable Dieu. Dieu a sauvé Jacob d'Ésaü. Il a sauvé de Laban. Et ailleurs encore, il a sauvé. Et Jacob sait qu'il est là. Mais c'est quand même une vie difficile. C'est comme nous. Nous savons que Dieu est là. Mais c'est quand même une vie difficile sur terre. C'est une réalité. Les gens sont mauvais. Il y a aussi les maladies, il y a les accidents, il y a les guerres. Nous sommes quand même dans un endroit difficile, mais Dieu est avec nous. C'est pourquoi, que devons-nous faire? Chercher toujours Dieu. Parce que l'endroit est difficile, on n'est pas le premier. Jacob le dit, les jours ont été difficiles. Alors, vouloir résoudre en cherchant la solution dans le monde est une erreur grave. Chercher la solution à travers l'argent, à travers ce que donne le monde, le mariage ou je ne sais quoi, c'est une erreur grave, puisque ce monde est difficile. Jacob a vécu ça, mais Dieu était là. C'était Dieu qui était sa consolation. C'était Dieu qui était sa force. Donc, que devons-nous faire? Chercher toujours Dieu. Oui, qui a le micro?
Oui. Oui, pasteur, le texte là m'interpelle fortement parce que c'est là, ça montre que Dieu est souverain. Parce que là, comme tu viens de dire, ces enfants, les enfants de Jacob ont fait beaucoup de dégâts. Et on voit même que Judas, je crois c'est Ruben qui a pris la femme de son père. Et on va voir qu'après quand même, Dieu nous dit que, il nous parle des 12 tribus de Judas, des 12 tribus d'Israël, pardon. Donc c'est sur ces enfants-là quand même que Dieu va confirmer sa parole, quoi.
Oui, oui.
Et moi, ça m'interpelle. Je dis, mais en fait, on peut être mauvais, on peut même pécher contre Dieu, mais quand Dieu a déjà un plan sur nous, il a mis son sceau sur nous, il nous
fait... Non, mais il faut qu'on rentre dans ce plan, parce qu'eux, ils sont rentrés. Quand ils sont venus, ils ont reconnu leur tort, ils sont rentrés dans le plan. Il faut rentrer.
Donc, ils ont reconnu leur tort.
Ils ont reconnu leur tort. Quand ils ont rencontré Joseph, ils ont reconnu leur tort.
C'est pas parce que Dieu avait déjà choisi Israël.
Ah non, c'est parce qu'ils ont reconnu leur tort. Mais Dieu dans son plan, il veut que tout le monde soit sauvé. Hein. Mais celui qui ne se répand pas, 1 Timothée 2:4 nous le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ah, son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il faut accepter.
C'était poussé quand même par Dieu, voulu par Dieu, parce qu'il avait déjà choisi Israël pour
oui,
confirmer sa parole.
Mais il faut que tu sois d'accord, même s'il t'a choisi. Il faut que tu sois d'accord. Oui, oui. C'est le Seigneur qui avait choisi Judas aussi, hein, mais il n'a pas été d'accord. Oui.
Toujours... En tant que, comme tu venais de dire tout à l'heure, Béréen, est-ce qu'on peut aussi dire que cette histoire de Jacob nous apprend la persévérance?
La persévérance de qui?
De Jacob, jusqu'au bout, parce que tu venais de faire un petit résumé de l'histoire de Jacob. Et jusqu'au bout, est-ce qu'on peut dire aussi que l'histoire de Jacob, pas de Joseph,
de Jacob. De Jacob, oui. Donc Jacob a été dans la persévérance. Malgré le fait que les situations se succédaient de difficultés, mais la manifestation de Dieu était sa consolation. Dieu lui est apparu à plusieurs reprises pour le fortifier. Et donc c'est ça qui lui a permis de passer tous ces caps difficiles. C'est pourquoi j'ai dit, le conseil que je donne, c'est qu'on cherche toujours la face de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de tenir dans ce monde difficile. C'est Dieu. Mais chercher le bonheur, par des bonnes choses de ce monde est une erreur grave. C'est chercher la face de Dieu qui est important. Oui.
Oui, pasteur, je voulais poser une question par rapport à ce que tu disais quand la sœur elle a parlé des frères de Joseph qui fallait qu'ils acceptent pour entrer dans le plan. Alors, je me pose la question parce que souvent, je prie pour une collègue à moi qui est athée, mais donc par rapport à ce que tu disais, comme elle refuse déjà Dieu, elle ne veut pas de ces choses-là.
Oui, on continue à prier.
Oui, mais est-ce qu'elle rentrera dans le plan puisqu'elle ne veut pas? Donc, pourquoi prier?
Elle finira par vouloir. Dieu va travailler jusqu'à ce qu'elle accepte. Après, elle peut aussi s'entêter jusqu'au bout. Mais on ne peut pas nous savoir en tant qu'humains.
Mais je me dis comment... la question que je me pose toujours, comment les gens s'entêtent comme ça? Est-ce que Dieu permet... leur cœur n'est pas favorable, oui, voilà.
Ah non, non, pour son salut, non. Dieu peut permettre que quelqu'un s'entête pour autre chose, mais pas pour son propre salut à lui.
Mais non, oui, non. Parce que moi, parfois, elle me dit, non, mais moi, me parle pas de Dieu, c'est n'importe quoi. Ce que tu me dis, c'est faux. Enfin, il n'existe
oui,
pas,
mais
Dieu.
C'est des bonnes personnes qui peuvent être sauvées, ce genre de personnes-là. Voilà. C'est juste qu'elle est voilée, c'est tout. Ok. Donc, Jacob répondit, donc, mais et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Et il faut savoir quand même que là, Jacob, je crois, il a 130 ans, et Abraham, lui, il est mort à 175, et puis Isaac à 180. Donc, c'est pourquoi il dit, bon, mes jours ne sont pas nombreux. Jacob est mort à 147. Voilà. Nous continuons. Verset 16.
Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils emmenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux du bétail ont été emmenés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit cela, une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Voilà. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon.
Voilà, donc là, c'est une parenthèse concernant le travail de Joseph en tant que responsable après le roi. Il a fait son travail sans chercher à prendre la place du roi. Contrairement à Adam, contrairement à Satan, c'est des gens qui ont voulu prendre la place du chef. Mais Joseph, on lui donne le plein pouvoir, plus que même que ce que Dieu avait donné à Adam, plus que ce que Dieu avait donné à Satan. Parce que Dieu n'a jamais donné à ces gens-là le plein pouvoir au niveau que Pharaon a fait pour Joseph. Mais on voit la différence. Joseph, lui, reste soumis à Pharaon et fait tout pour que Pharaon soit enrichi. Mais combien de gens ne veulent-ils pas voler la gloire de Dieu aujourd'hui? Dieu lui donne un don spirituel, ça devient son truc à lui. Dieu lui donne un talent, ça devient son truc à lui. Là, Joseph, on lui donne le poste de pouvoir très élevé au point que Pharaon ne fait plus rien. Pharaon dit, entre moi et toi, la différence, ça sera seulement le trône. Pour le reste, c'est toi le chef de tout. Joseph pouvait faire des complots très élevés pour déstabiliser Pharaon, prendre sa place. Puisque Pharaon ne faisait plus rien. Mais non, il fait tout pour que Pharaon soit riche, soit son pouvoir soit toujours élevé. C'est remarquable. Quand on dit que Joseph est le type de Christ, eh bien c'est vraiment très vrai, très puissant, parce qu'on le retrouve avec Jésus qui, malgré, c'est ce qui est écrit dans Philippiens 2, malgré son égalité avec Dieu, il a choisi de s'humilier, de venir en homme. Il n'a pas pris comme proie d'arracher son égalité avec Dieu. Il n'a pas fait comme Adam, ni comme Satan, qui, dès qu'ils se sont vus en puissance et en gloire, tout de suite, ils ont cherché à prendre la place de Dieu. Non, il a laissé. Il est resté à sa place. Et Joseph reste à sa place. Joseph pouvait dire, ah, mais non, Pharaon, c'est l'Égypte, c'est des païens. Nous, on est du véritable Dieu. Il m'a mis ce pouvoir-là. En réalité, c'est pour que je prenne son pouvoir. Non, il est resté à sa place. Bien-aimés, apprenons à rester à notre place. Ne cherchons pas à prendre le pouvoir qui est au-dessus de nous. Apprenons à rester à notre place. Faisons comme Joseph. C'est ça un enseignement important. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas nos efforts. On peut forcer, mais on se retrouvera mal, tôt ou tard. Restons à notre place. Tu es enfant, reste à ta place d'enfant. Tu es femme, reste à ta place d'être femme. Ce n'est pas parce que tu as eu un bac avec beaucoup plus de avec une note plus élevée que ton mari que tu peux le diriger. Il faut faire attention que chacun reste à sa place. Ne cherchons pas à prendre la place qui est au-dessus de nous parce que nous, on estime que c'est notre place. Non. La personne qui pouvait le dire, c'est Joseph. Parce qu'il faisait tout. C'est lui qui a sauvé l'Égypte de la mort, de la famine, de la banqueroute. Mais il est resté à sa place. Il a laissé Pharaon à sa place. Au contraire, il a fortifié le pouvoir de Pharaon parce qu'à partir de ce qui s'est passé là, Pharaon devenait beaucoup plus roi qu'avant parce que maintenant les gens, tout lui appartenait alors qu'avant les choses ne lui appartenaient pas. Mais maintenant, Joseph a fait que finalement, le pouvoir de Pharaon se renforce. C'est ce qu'on devrait faire. Faire en sorte que le pouvoir de Dieu sur les gens augmente au lieu que ce soit nous qui soyons applaudis, félicités, nous élevés. Non, il faut qu'on fasse que quand nous avons affaire à utiliser le don de Dieu, le talent de Dieu, que le but soit que le pouvoir de Dieu sur les gens envers qui nous utilisons ça, ce pouvoir-là augmente le pouvoir de Dieu. Et non pas, nous, on commence à partager avec Dieu dans les personnes sur qui nous travaillons. Non! Il faut que le pouvoir de Dieu dans la vie des gens augmente par notre action et non pas que nous puissions devenir quelqu'un et prendre la place de Dieu. Et comme c'est le cas aujourd'hui, on voit à gauche à droite des gens mettre leur nom, ministère untel, et c'est ça qui est en grand dans le bâtiment, leur photo. Non, il faut laisser à Dieu seule la gloire, comme Joseph l'a fait pour Pharaon. Il est resté à sa place. Il a au contraire fortifié, agrandi le pouvoir de Pharaon dans les personnes. Nous finissons chapitre, verset 27.
Verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit.
Amen, amen. Quel attachement au plan de Dieu. Il dit à son fils, « Jure-moi. Le jour où je meurs, il faut m'enterrer à côté de mes parents. Parce qu'il y a une histoire entre mes parents et moi et notre Dieu. Il nous a promis Canaan. Il va répéter ça encore à Joseph plus tard. Il nous a promis Canaan. Il y a une histoire avec cet endroit-là. Donc je veux être enterré là. Bien-aimé, aujourd'hui, qui s'intéresse à sa mort, il y a des gens même qui laissent, il faut me brûler. Donc, il y a des gens, ils disent le jour de ma mort, il faut m'incinérer. Donc que je devienne poussière. Les gens, ils se moquent de leur mort. Ils veulent manger pendant qu'ils sont vivants. Faire des circuits pendant qu'ils sont vivants. Aller à Tahiti, Thaïlande. Mais ils ne s'occupent pas de leur avenir. Mais, parce qu'ils se disent, mais quand je suis mort, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut manger. Mais Jacob, lui, s'intéresse à sa mort. Parce qu'il sait qu'il y a une relation importante. Tout ne s'arrête pas là. C'est sa mort. Il jure à son fils, je meurs, allez, monte mon corps dans le tombeau de mes parents. Parce qu'il y a une suite. Les choses ne s'arrêtent pas là. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont charnels et s'intéressent qu'à leur vie ici sur terre. Vous savez, un jour, j'appelle un aîné à moi qui se trouve dans la région parisienne pour lui, le jour de son anniversaire. Je lui dis, bon anniversaire. C'est un aîné à moi, ça fait un moment qu'il est intéressé par Dieu. Et il veut se faire baptiser, mais il veut que ça se fasse ici à Rouen. Et il me dit, mon anniversaire maintenant, ça sera le jour de mon baptême. J'étais honteux. Il dit, ah, voilà. Il y a des gens qui font des sauts périlleux le jour de leur anniversaire. Bien-aimé, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis de ceux-là qui disent, le jour important, c'est le jour où j'ai connu le Seigneur. Les gens qui veulent insister et transformer leur anniversaire en je ne sais quoi, ils perdent leur temps. Maintenant, on n'a pas dit que celui qui fête son anniversaire, il a péché. Mais quand il m'a répondu comme ça, j'ai dit voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est attaché au plan de Dieu. Il est attaché. Mais ce n'est pas la même personne que je connaissais. Il n'était pas comme ça. Mais à force. Et vous savez, c'est lui qui m'a mis la pression. Il faut recommencer Béréen l'explorateur. On veut lire la Bible. Mais à force qu'il lit la Bible, il aime Dieu. Et c'est son histoire avec Dieu qui compte plus que son histoire humaine. C'est logique. C'est aussi simple que ça. C'est son histoire avec Dieu qui compte. Et vous savez, moi, je suis le champion d'oubli. J'oublie toutes les dates des gens. Mais ça, pour lui, je n'ai pas oublié, mais voilà, c'était pour que Dieu m'enseigne, c'est tout, pour que Dieu me parle. Je dis bien, nous ne sommes pas en train d'inventer une nouvelle Bible pour dire qu'il ne faut pas fêter un anniversaire ou quoi que ce soit. Je dis tout simplement que nous devrions être intéressés par notre histoire avec Dieu plus que par notre histoire humaine. Amen. Qu'on ne me prête pas des choses plus tard, il m'a dit, c'est le jour de mon baptême maintenant. J'ai dit, ah, ça c'est de véritables combattants. Au nom de Jésus. C'est son histoire avec Dieu qui est l'histoire la plus importante. Il dit, jure-moi. Et Joseph lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. On ne sait pas pourquoi il s'est prosterné. Mais il a dû dire merci Seigneur. L'histoire continue. Ça continue. Je vais mourir, mais j'ai un fils qui va s'occuper de faire ta volonté. Je peux vraiment m'en aller, quoi. Il s'est prosterné et a glorifié le Seigneur. Et Joseph a juré, papa, je ferai ce que tu as dit. Je vais t'enterrer où se trouvent tes parents. Vous comprenez que dans les passages qu'on va lire dans la suite, que Joseph lui-même, quand il va mourir, il va dire quoi? La même chose. On va vous visiter, mais le jour où vous partirez, prenez mes ossements, allez m'enterrer auprès de mes parents. Et c'est ainsi qu'un autre type de Christ, Moïse, le jour où lui, il sort d'Égypte, il se souvient de l'autre type de Christ qui l'a précédé. Il faut qu'on amène ses ossements. Parce que c'est ce qu'il avait dit 400 ans, plus de 300 ans avant. Moïse s'est souvenu que Joseph avait dit ça. L'histoire continue, bien-aimé. Comme notre frère Paul dit, je m'en vais. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. L'histoire continue, il y a des disciples qui continuent le travail. Moi, je m'en vais. L'apôtre Pierre dit, je vais être offert en libation, mais l'histoire continue. On ne nous a pas arrêtés. On a produit ce qu'il fallait produire et on continue la vie. L'histoire avec Dieu, pour ces gens-là, était plus importante que leur histoire humaine. Jacob nous le montre. Quel bel exemple. Gloire à Dieu. Oui, pasteur.
Oui, on voit dans la Bible que la terre, les différents lieux avaient aussi leur importance. Est-ce que pour nous chrétiens, on peut continuer à vivre dans la même logique? Si on prend l'exemple de Jacob qui a voulu être enterré hors de l'Égypte, est-ce que nous aussi on peut se dire je voudrais être enterré dans mon pays, dans mon...
Ah non, nous notre enterrement ça n'a plus d'importance. Hein. Donc c'est, on peut être enterré là où ça se peut quoi, sauf qu'on soit enterré, qu'on ne soit pas incinéré. Là où ça se peut, mais l'enterrement de Jacob et des autres avait une importance parce que ça soulignait la relation avec Dieu, parce qu'Abraham avait fait acheter les grottes de Macpéla. Donc ça symbolisait que nous sommes sous le Dieu d'Abraham. Il y avait une relation spirituelle par rapport à cela. Donc nous continuons l'histoire du Dieu d'Abraham. C'est dans ce sens-là. Nous sommes liés à notre aux gens qui nous sont précédés. Vous savez, quand on dit que Élie va venir dans les derniers temps, il viendra réconcilier les pères et leurs enfants. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus en contact avec les pères que sont pour nous les apôtres, les Jacob et les Joseph. On vit des choses pas en relation avec eux. Et notre vie ne leur ressemble pas. Donc, il faut que cela change. Donc, c'est pourquoi Dieu va envoyer Élie pour nous ramener au Père. Il faut que nos vies ressemblent à nos pères. Les Paul, les Pierre, les Jacob, les Joseph. Il faut que nos vies leur ressemblent. C'est pourquoi Dieu enverra l'esprit d'Élie dans les temps de la fin. Et c'était important qu'il y ait toujours ce lien-là. Abraham, Jacob, Joseph. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et ainsi de suite. Il fallait qu'il y ait toujours ce lien-là. Et l'enterrement dans les grottes de Macpéla, à Mamré, ça symbolisait cela. Oui.
Oui, par rapport à l'incinération, est-ce que c'est un péché?
Alors, comme ce n'est pas le sujet, mais déjà je réponds, hein. Ce n'est pas biblique, c'est plutôt une malédiction. Mais on va donner les éléments. Je te donne juste Josué 7 dans un premier temps pour aujourd'hui. Josué 7. Donc, quand il y avait on incinérait les gens qui étaient maudits, voilà, qui étaient jugés par Dieu. Voilà. Et puis, c'est une coutume qui vient des religions sataniques de l'Orient. Donc, ce n'est pas quelque chose à suivre. Voilà, nous allons prier pour remercier le Seigneur pour l'exemple que sont pour nous Jacob et son fils Joseph et pour les enseignements qu'il nous donne. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple que sont pour nous Jacob et Joseph, des exemples de persévérance, des exemples d'amour pour toi, hein, des témoins, c'était vraiment des témoins. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir que tu existais à travers leur attachement à toi, à travers leur histoire à eux, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que nous puissions suivre leurs pas, même mieux que cela encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à comprendre que le temps est venu où nous devons vivre comme nos pères, que sont Joseph, Moïse, Jacob, Paul, Jean et les autres, Seigneur. Comme Marie dit, je suis ta servante éternelle, qu'il me soit fait selon ta volonté. Nous voulons des phrases comme ça aujourd'hui encore. Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voulons à nouveau des phrases de ce genre au milieu de nous. Des gens qui vivent en voyageurs, en pèlerins. Des gens qui ne sont plus jaloux, mais qui comprennent que tu as un rôle pour chacun d'entre nous. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus, amen.